Commençons. C'est ma philosophie, et que si on ne commence jamais, on finira jamais, et on est un peu en retard. Bon, je m'appelle John Rosenberg, et je suis doyen de la faculté Arts et Lettres de l'Université BYU, et je suis donc honoré d'être le modérateur pour ce panel très cosmopolite avec des représentants de l'Allemagne, de l'Espagne et aussi une édition du Mexique. Et donc nous aurons trois orateurs durant cette session. Et je pense qu'afin de gérer notre temps un peu mieux, nous allons entendre chacun des trois orateurs. Et si vous pouvez prendre note avec les questions que vous pouvez poser. Et après ces trois orateurs, après qu'ils aient l'occasion de donner leur message, donc nous aurons l'occasion d'ouvrir la discussion à l'Assemblée pour les questions que vous pouvez avoir. Notre premier orateur sera professeur Marco Franciszkowski, qui est professeur de sociologie à l'Université de Leipzig, en Allemagne, et qui est un bon ami de l'Université de BYU. Et c'est un théologien et qui étudie la théologie et les anciennes traditions et l'Église, l'histoire des Églises. Il a aussi écrit beaucoup de choses concernant le supernaturel et le fantastique dans la littérature, ayant édité, annoté des éditions des histoires médiévales. Il a aussi publié une enquête concernant les Saintes Écritures et un livre chronique concernant la chrétienté de l'Antiquité. Et il a récemment travaillé ici aux États-Unis sur tout ce qui est la sorcellerie. Vous êtes bien au courant de notre tradition Halloween. Et maintenant, il travaille sur une collection des études religieuses de point de vue de la chrétienté antiquité. Professeur Franciszkowski.
Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un plaisir d'être avec vous et de partager quelques idées. Les idées académiques et ce que les intellectuels peuvent partager dans vos états. J'aimerais parler de l'état de l'Allemagne. Et j'étudie la théologie, je ne suis pas un intellectuel du droit, mais si vous voulez vraiment comprendre la société, la société ancienne, vous devez connaître deux choses, le langage, la langue et le système de droit. Je connais les langues, mais hélas, je ne connais pas vraiment le système de loi. En Allemagne, il n'y a pas eu d'église d'État, mais des églises protestantes et l'église catholique ont beaucoup de privilèges. D'autres groupes peuvent partager ces privilèges, mais certains sont timides à essayer en seulement très peu de relations avec l'État. Mais cependant, depuis quelques années, environ 30 groupes ont pu recevoir plus de respect dans la vie publique de l'Allemagne. Corporation du droit public. Il y a beaucoup de mouvements religieux, mais les religions sont pas très importantes et ont eu une influence ancienne et aussi une influence américaine. Les religions ne sont pas vraiment utilisées pour apporter plus de diversité. 32% de protestants, 1% d'orthodoxes, une quinzaine de pourcents de catholiques et 4% sont musulmans, beaucoup devenus allemands de nationalité. Nous apprenons des autres religions à la télévision et par le tourisme et maintenant avec nos voisins. L'influence de l'islam n'est toujours pas comprise aujourd'hui en Allemagne. Il y a aussi une hiérarchie de, et un respect public donné aux religions, un ordre. Les religions sont établies, sont plus respectées que d'autres, comme d'autres groupes. Même les églises chrétiennes ont un critère d'évaluation qui commence à grandir. Si un prêtre, catholique a un mauvais comportement, les gens disent « Ah, il devrait être... je ne suis désolé, mais ce n'est pas vraiment une caricature, mais si un prêtre catholique agit de mauvaise façon, on dit qu'il devrait agir mieux parce qu'il est catholique, alors qu'un membre d'un culte moins connu pourrait être... on lui dira « Ah, mais c'est parce qu'il fait membre, il est membre de cette secte, de ce groupe, qu'il agit ainsi. » Nous avons, dans les années 90, il y a eu beaucoup de discussions à propos de l'Église de Scientologie qui est devenue une idée de superstition et de conspiration selon beaucoup d'idées de gens en Allemagne. Et j'essaie de faire mes recherches dans ce domaine afin d'éduquer les gens. Il y a des discussions avec l'islam qui continue à grandir et qui nous aide à comprendre les cultures et la diversité. La chose la plus importante est dans les années récentes, les témoins de Jéhovah sont en Allemagne maintenant depuis un peu plus de 10 ans. La Constitution a accepté que les témoins de Jéhovah puissent être acceptés en Allemagne car ils respectaient le gouvernement. En 1997, une autre loi a été mise en place pour accepter aussi les témoins de Jéhovah. Comme vous le savez, cette décision évoque que les groupes religieux ne perdent pas leur droit à pratiquer, mais que la majorité ne comprend pas vraiment leur pratique. Et la population dira simplement que les groupes religieux peuvent être acceptés tant qu'ils adhéreront à la loi du pays. Si l'idée il y a des groupes religieux qui peuvent être dangereux, par exemple l'attaque dans le métro à Tokyo, qui peut nous montrer que la peur existe, mais qu'elle ne peut pas être un guide pour comprendre toutes les religions. Le nationalisme, l'islamisme, et je ne suis pas certain que c'est une vague commune. En Allemagne, beaucoup nous ne devons pas tuer le dialogue, mais garder un comportement civique et poli entre les groupes. Deuxièmement, le deuxième sujet que j'aimerais aborder, qu'est-ce que le domaine académique peut contribuer au processus de problème des libertés religieuses? En 1920, M. Weber a étudié, sociologue, a défini que c'est le besoin élémentaire de l'éducation que de faire comprendre à tous les croyances des autres. Les choses ne sont pas simples que qu'on le pense. Le domaine académique des religions, les sciences des religions, comme on appelle cela au XIXe siècle, a affaire à des effets dont les clarifications... Pardon, il faut clarifier ce que les religions sont et ce qu'elles sont. Les groupes religieux ne sont pas des groupes théologiques. La théologie est une étude qui peut encadrer toutes les croyances religieuses. Cette compétence nous explique ce que la théologie est vraiment. La théologie économique, religieuse, comme la psychologie, la philosophie, la sociologie, utilise des sciences humaines afin de comprendre les religions. Mais les études religieuses est quelque chose qui est très différent. C'est un domaine académique où on étudie les comportements, les institutions et les comportements. Les études religieuses comparent peut-être, mais n'évaluent pas le rôle des religions, font seulement peut-être une comparaison et des perspectives à travers les différents groupes. Par exemple, je suis un ministre de mon Église. Dans notre contexte, il est intéressant de savoir que les études religieuses n'existent pas seulement dans les pratiques juives ou chrétiennes, mais qu'il y a aussi d'autres groupes qui ont essayé de comprendre les pratiques égyptiennes ou les pratiques celtiques. Les études religieuses étudient aussi l'islam, qui n'est pas souvent reconnu dans les pays occidentaux. J'aimerais mentionner, pour nous rappeler, que ce n'est pas seulement les gens... ce n'est pas quelque chose. Je ne parle pas seulement de l'Occident, mais quand je parle des études religieuses, mais les musulmans ont donné aussi beaucoup d'attention aux pratiques religieuses. Et il y a d'autres études comme l'étude des pratiques hindoues. Beaucoup d'intellectuels, je cite plusieurs noms ici, des personnes reconnues qui ont étudié les pratiques religieuses islamiques ou indiennes. Un livre au Moyen-Âge est devenu le plus populaire à cette époque, écrit par un Indien, pour comprendre les cultures à l'extérieur de l'Inde. Étudier l'astronomie, les mathématiques, l'astrologie, beaucoup de recherches ont été faites. J'aimerais beaucoup parler plus, mais je n'aurai pas le temps de parler de cela. Mais aujourd'hui, les études religieuses sont complexes. Et de quoi parlons-nous ici à cette conférence? Les études religieuses nous aident à comprendre des textes religieux. Ils nous aident à comprendre notre place dans l'histoire de la foi, et non pas seulement accepter quelque chose comme vérité, mais nous aider à comprendre où nous sommes et ce que nous sommes et ce que nous faisons dans une société à une certaine époque. Et pouvoir étudier les études religieuses nous permet aussi de séparer les idées politiques et militaires et aussi de rejeter les stéréotypes et créer des dialogues. Mais cela ne peut pas toujours créer des dialogues. Cela aussi peut, cela peut briser les préjudices. Cela peut les styles de compréhension qui sont assez ringards, on dirait. Cela aussi peut aider à comprendre les droits de l'homme et les scénarios de ces différents droits. Avant-hier, nous avons entendu un collègue juif qui a dit qu'il ne parlait pas des droits de l'homme, mais des devoirs de l'homme. Le christianisme nous dit que les droits de l'homme ont été fondés sur la base du christianisme, ce qui n'est pas peut-être vrai, puisque en 1948, la Déclaration des droits de l'homme, beaucoup de gens ont protesté que l'autonomie de l'homme était considérée et devait séparer l'idée religieuse. Les études religieuses peuvent aussi nous aider à apprendre à être plus ouvert. Qu'est-ce que les études religieuses ne peuvent pas faire? Elles ne peuvent pas répondre à toutes les questions sur les religions et ne peuvent pas vous guérir et ne peuvent pas vous diriger vers Dieu. Seulement la foi peut faire cela. Cela ne peut pas ouvrir les portes du dialogue, seulement l'espoir des gens. Donc il y a une certaine humilité dans l'étude des religions. Mais des gens peuvent faire sans ces études et qu'avec la foi, ils peuvent guérir tous les problèmes de la société moderne. Et je crois qu'ils ont tort, évidemment. Ce n'est pas une question d'honnêteté intellectuelle, mais nous avons affaire à des ambivalences et il faut que nous devons éviter le fondamentalisme qui existe dans chaque religion aujourd'hui. Maintenant, je ne pense pas que nous ne devons pas sous-estimer le potentiel des religions. Les religions, nous devons comprendre nous aide à comprendre la paix qu'elles donnent ou bien les tragédies qu'elles apportent. Les études religieuses peuvent aussi nous aider à comprendre l'histoire des stéréotypes, parce que les stéréotypes ne sont pas des mensonges, mais ce sont des demi-vérités, et c'est ce qui les rend dangereuses. Dernièrement, ce matin, j'aimerais être franc avec vous. C'est comment peut-on trouver le vrai christianisme, le vrai judaïsme, le vrai islam? Que des groupes disent que leur religion est la seule religion exacte n'aide pas à comprendre celle des autres. Et nous devons faire des analyses et créer plus de dialogues pour apporter le potentiel de toutes les religions. Je vous remercie pour votre attention.
Thank you. Merci. Notre prochain orateur sera José Ferrer Sanchez de l'Université de Granada en Espagne. Il est spécialiste dans les médiations interreligieuses et il présente des séminaires dans les universités, négocie entre le management et les employés dans ces négociations. Il a plusieurs diplômes dans les affaires sociales, dans le droit aussi, et des certificats dans d'autres sujets. Il est associé avec le gouvernement social de sa ville de Granada. Il enseigne les étudiants des États-Unis un cours sur la culture, la paix et l'Union européenne. Il est aussi membre d'un programme UNESCO en Andalousie où il donne une présentation concernant les religions et les dialogues interreligieux. Il a aussi travaillé dans des projets humanitaires pour assister les réfugiés qui ont fui le Sahara de l'Ouest. Professeur Ferrer. Eh bien, il y a longtemps, ma mère qui dit, Pépé, tu dois être élégant. Et maintenant, ma femme est obéissant. Et donc, ma femme et ma fille maintenant me disent, Pépé, tu dois être obéissant. Si nous avons le temps maintenant, je vais essayer d'être obéissant en restant dans mon temps. Et si je répondrai aux questions plus tard, si nous avons le temps, je remercie BYU de l'occasion au cours de ce symposium de pouvoir vous parler. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, j'aurai plus de temps pour les questions après. Et vous pouvez avoir tous les articles que vous voulez. Maintenant, nous allons parler de trois choses. Donc, le droit de prosélytisme, la liberté religieuse et le discours de haine. L'écart qu'il y a entre la liberté religieuse d'un côté et l'implémentation d'un côté. Les médiations religieuses peuvent, comme j'ai déjà dit, tout est au sujet de l'arbitrage religieux. La liberté religieuse est un droit fondamental qui est trouvé dans la vie personnelle, mais aussi l'exercice de ce droit est collectivement trouvé dans les synagogues, dans les mosquées, dans les chapelles, dans les églises et les temples ou autres centres de culte religieux. Et nous devrions déplacer tout obstacle qui empêche la jouissance de ce droit. Le lieu de culte est l'une des choses premières qui a été mentionnée dans l'édit de Milan. Ceci est... Donc les citoyens sont affectés par ceux qui sont les membres de... Ceux qui sont de parties de groupes minoritaires sont affectés par ces décisions. Ceci aussi crée une réduction de droits fondamentaux et de libertés religieuses, et surtout ce qui a trait au lieu de culte. Les pouvoirs législatifs en Espagne, en Catalan, ont un peu initié des processus de pouvoir offrir des lieux de culte pour les différentes religions. Souvent, l'État demande à ce que ces bâtiments soient à l'extérieur des villes ou à des endroits qui sont difficiles à atteindre. Et ceci, par contre, nous ramène un peu à des moments comme un peu le temps de Franco. Et comme les religions, de par la Constitution, les religions minoritaires devaient obtenir une autorisation spécifique pour pouvoir s'installer. Il semblerait que certains dirigeants politiques ne veulent pas de lieu de culte de minorité près de chez eux, pas à côté de chez moi. L'application, en fait, de ces critères donne une grande marge de la manière dont cette application et ceci est appliqué dans chaque situation, dans chaque ville.
as well as carrying out inspection to verify complaints.
No.
Putting pressure of the religious group involved based on the interest in the issuing body.
L'administration est tentée à augmenter les procédures légales par lesquelles les autres peuvent faire reconnaître leur foi. Comme l'islam, beaucoup de minorités religieuses vont prendre seconde place. C'est un fait que les bâtiments religieux, lorsqu'ils sont positionnés stratégiquement, peuvent réduire le crime. Ici, aux États-Unis, nous avons vu qu'en fait, les lieux de culte permettent de pouvoir diminuer le crime et l'allégeance à la foi donc grandit et donc évite les crises possibles dans la ville. Une chose qui a été notée et qui est montante en Europe, qui s'accentue dans nos propres pays. Et c'est comme en Espagne aussi, nous avons expérimenté un long flux migratoire qui a fait venir les gens. Et les crises économiques n'est pas qu'à propos d'argent, c'est aussi pour la garantie de droits de l'homme de base. Le droit humain de base. Sans compréhension de l'existence de ce phénomène de diversité religieuse et de mauvaise approche sera prise. Et les étudiants, les lycéens en Espagne, par exemple, 82% des lycéens en Espagne sont tolérants en ce qui concerne la religion. Ils expriment que il y en a certains qui expriment qu'ils ne s'assieront jamais à côté d'un juif dans la classe, cependant. Sur la base de l'appartenance ou de leur nationalité ou de leur orientation sexuelle, leur langue, leur opinion politique, leur statut social ou l'apparence physique et les capacités mentales ou d'autres considérations. Il y a une discrimination qui est présente. Ce n'est pas une expression légitime de l'expression de la liberté d'expression. Et de ne pas être capable de reconnaître la diversité est très dangereux dans le développement de notre société, de ne pas penser à la minorité avec un contexte culturel. Toujours à notre esprit, nous avons l'esprit des massacres qui ont été portés par des gens qui voulaient faire du mal aux musulmans. La personne qui est différente et aux minorités, le dialogue remplace dans ce cas l'intolérance de l'autre et le fait d'essayer d'empêcher aux autres de venir et de s'intégrer et d'avoir des droits. Et pour résoudre ce problème et les conflits possibles entre les locaux et les étrangers, et avec difficulté, et on travaille avec les autorités, et ils ont du mal à adresser les problèmes de violence qui sont produits par ce type de clash. Nous avons besoin de l'espace, mais aussi de professionnels qui peuvent aider le dialogue et la médiation. Un exemple intéressant concernant la relation la montée de ces situations similaires, ce type d'expression est relié à la liberté d'expression et d'opinion, comme ce cours peut être pleinement en faveur d'une option complète. Donc le rapprochement entre la manière de penser et le discours de Nadel est clair. Ainsi, on peut trouver donc le droit des pensées comme le droit de changer de religion, de manifester une religion, sa propre religion, et devrait aussi inclure le droit d'enseigner, de prosélytisme et de prêcher en public et de pouvoir faire cela en accord avec ses croyances religieuses. Est-ce que le droit de prosélytisme est aussi un droit appartenant à la liberté religieuse? Il y a aussi le droit de prosélytisme n'est pas seulement religieux, c'est aussi une forme artistique politique. Pour les gens qui ont des croyances personnelles, ceci peut les aider donc à porter leur mission aux autres. La liberté religieuse s'étend aussi au droit de prosélytisme. En Espagne, le prosélytisme est restreint aux minorités. Et donc, s'associer avec ceux de l'extérieur qui ne fait pas partie de notre groupe, qui n'est pas traditionnel, et aussi qui ne fait pas partie de notre façon de faire. Et ceci s'est aggravé en cours pendant la période de crise économique. Je ne propose pas que on aille dans le sens de la Cour européenne des droits de l'homme sur une publicité libre. Et je parle de légiférer sur le prosélytisme. La Cour européenne à Strasbourg a eu à plusieurs occasions s'est prononcée sur le prosélytisme de certaines personnes et expliquant donc que les personnes de foi font partie intégrale de la religion. Ainsi donc, prosélytisme, pas de conflit avec, si c'est bien fait, n'a pas de conflit avec la vie privée des gens. Mais le droit de faire part une idée à l'un ou à l'autre, à qui que ce soit qui veuille écouter, devrait être un droit accessible. Ainsi donc, c'est similaire à la vente de porte à porte. Et donc de montrer que le droit de montrer qu'un produit est meilleur que l'autre, mais donc aussi de la même manière le droit de saluer et de présenter certaines lignes de pensée. La liberté de persuader, cette liberté est nécessaire dans les relations humaines. Si nous ne pouvons pas persuader, nous ne pouvons pas débattre et finalement nous ne pouvons pas avoir de conversation. Le problème est ceci. C'est des tendances progressives de réduction de l'attitude, spécialement dans le champ de la religion. Dans le cas de la dictature du régime totalitaire, la mesure où la personne qui dirige gère les choses de la manière qu'il désire. Il faut une indépendance complète de l'esprit. Il n'y a pas de prosélytisme là où les règles locales créent une apathie, un anodisme Nous trouvons que le prosélytisme dans les sociétés ouvertes, où la patience et les croyances offrent, aide la patience et la croyance à croître. Et là où la communauté se perçoit comme unie. Toutefois, qui peut être différente et pouvoir être en concurrence. Mais l'expression de liberté peut aussi mener à des excès et à des perversions. La tendance d'imposer ce qui est proposé, d'essayer de convaincre et de persuader, c'est une tentation dans l'esprit humain, et de par l'individu et aussi par les groupes, pour essayer d'imposer un certain comportement public. Le prosélytisme est utilisé dans le peuple, la position est présumée comme étant liée au comportement social de la personne. Dans des groupes, des larges groupes, comme dans la société, doit y avoir une liberté que la loi doit protéger. Et les chrétiens ne devrions pas restreindre cela. Je ne pense pas que le prosélytisme devrait faire partie des minorités aussi facile. Devrait être une priorité des groupes majoritaires plutôt que des groupes minoritaires. Nous pensons que les minorités qui ont embrassé et qui croient aux croix, la majorité, sont plus enclins à l'oppression qu'est. Ce qui est clair, c'est que le prosélytisme peut nous convaincre en tant. Merci beaucoup de votre occasion, de votre temps.
Notre troisième orateur est professeur Paola Carmona, professeur de droit constitutionnel au Mexique. Elle a reçu son diplôme au Mexique et sa thèse a gagné le premier prix du secrétariat de la Nation en 2011. Elle travaille dans la Maison des représentants. Professeur Carmona, s'il vous plaît.
Buenos días. Es un honor para mí estar frente a este auditorio tan distinguido. En primer término, quiero agradecer a BYU.
J'aimerais remercier BYU pour l'invitation de participer à ce symposium et de reconnaître ceux qui ont présenté avant moi. J'aimerais vous dire aussi parler de la liberté d'expression et de la liberté de religion au Mexique, que je considère comme quelque chose de très important, et j'aimerais partager. Ma présentation est divisée en cinq parties. Tout d'abord, une introduction, puis ensuite une référence au travail constitutionnel établi au Mexique et le travail de cas qui limite la liberté d'expression et le sujet des religions et comment est-ce que cela est contrasté avec les documents internationaux et ensuite je ferai une conclusion. Tout d'abord, j'aimerais mentionner la relation entre la liberté d'expression et la liberté des religions. Nous savons qu'il y a des origines communes et c'est en fait d'exprimer ce que l'homme a besoin d'exprimer, ses opinions et ses sentiments en public, tout comme il pourrait exprimer. Nous savons que nous avons des périmètres communs. Le premier document qui a été mis en place avec la déclaration dans la constitution américaine, ce grand pays, et avec la déclaration des droits de l'homme de 1789. J'aimerais aussi parler de l'origine des libertés par nature. L'homme a pour but d'être libre et qu'il y ait une liberté de louer un Dieu pour son exercice correct et qu'il a le droit qu'il ne que ce droit doit exister de notre façon la liberté d'expression et de dire qu'une personne, un individu, peut trouver les réponses à toutes ces questions selon son comportement social et de montrer par ses actions et communiquer avec les autres ses croyances et sa foi. Enfin, finalement, la liberté de penser, liberté de religion et la liberté de s'exprimer nous rend hommes et ces femmes, êtres humains en fait. Et au Mexique, nous avons du cadre constitutionnel qui a été réformé, la constitution actuelle est de 1917. Actuellement, à cette époque, les libertés religieuses étaient très très strictes jusqu'à 1992 où nous avons eu des réformes constitutionnelles et il a été établi dans le 24e article que le droit de croyance existe et la liberté des religions et que le gouvernement est limité, qu'aucune loi ne devrait être mise en place pour bloquer quelque religion ou religion privée ou publique. Et surtout, dans les actes publics, il y a une séparation des groupes ordinaires avec les églises et les groupes extraordinaires, qu'on appelle extraordinaires, les groupes qui le gouvernement doit donner son autorisation pour accepter ces groupes. En 1917, nous avons eu la prohibition dans le premier terme. Les dirigeants religieux n'ont pas pu faire de prosélytisme et de prêcher ou d'aller contre les lois ou les dirigeants gouvernementaux. Ainsi qu'au niveau de la publication, rien ne peut être contre les lois des institutions et des symboles patriotiques du pays. Dans le 27e article, il est établi que le cadre de que cet article vous pourrez avoir de façon certaine afin de suivre vos objectifs, ce qui est évidemment qui a pour but donc voilà comment le système est mise en place.
Dans l'article 7 de la loi constitutionnelle de la République, s'établit ainsi. La première fraction requiert que l'Église requiert une matriculation, s'inscrive dans le pays. Donc, selon l'article 30, prépondérément, ils doivent observer les instructions et les procédures pour se créer en tant qu'institution religieuse. Et c'est là le premier point. D'autre part, dans l'article 14, ces institutions doivent obtenir l'inscription et en plus de cela, ils doivent contenir la doctrine
de cette Église. Et d'autre part, dans l'article 91, les associations ont le droit de propager leur doctrine et ils s'établissent comme une institution. Ils ont aussi la possibilité de diffuser leurs croyances religieuses. Dans l'article 16, il s'est établi l'interdiction expressive des associations religieuses, que vous pouvez avoir et administrer et concernant les publications massives et aussi les concessions des magasins pour exploiter la diffusion massive. Il y a certaines limitations expressives qui contrôle d'une manière la liberté d'expression des associations religieuses et qui va un peu à l'encontre de la législation elle-même. Maintenant, l'un des droits que détiennent les associations religieuses, c'est précisément la possibilité de faire du prosélytisme et de propager leur doctrine et dans l'air public. Et il y a une congruence un peu de la loi et une compréhension de la loi de la législation. Et dans l'article 29, qui dit aussi que si les associations religieuses détiennent ou administrent des moyens de communication massive, il y aura donc une sanction par l'autorité appropriée. Bon, nous devons un cas qui représente un peu tout cela. C'est le cas qui montre un peu ces limitations respectives concernant ces modes de communication. C'est un cas qui se présente dans la municipalité de Simapán Hidalgo, dans la République mexicaine. Et c'est un point de révision constitutionnelle de 2008. C'est une coalition concernant une coalition politique qui s'appelle MAS Hidalgo et dans l'État de Hidalgo. Selon l'autorisation, les ministres du culte, selon l'article. Il parle de réflexion que la protection que tiennent les groupes. Ce qui s'est dit, en fait, dans la messe dominicaine, pendant la prêtrise, et pendant la messe, ils peuvent pas insinuer à qui ils vont voter, pour qui ils vont voter. Même si c'est une bonne idée, ils ne peuvent pas insinuer quel candidat ils préfèrent. Ils ne doivent pas mentionner de parti politique non plus. Et je vais être brève. Ils ne peuvent pas mentionner le parti politique et même les sentiments qu'ils ont par rapport à une tendance politique. Dans cet état d'Hidalgo, il s'est dit, donc le jugement a été qu'il n'y a pas de point relevant pour annuler et relevant qui a pu changer la point qui peut changer l'élection. Et ceci a été donc à plusieurs instances. Et ainsi, si on regarde ce cas avec ces documents internationaux, mais au Mexique aussi, d'autre part, dans les années 2000-2011, il y a eu donc une réforme matrimoniale profonde. Ils ont établi l'article premier constitutionnel pour affecter à cette présentation. Je vais faire référence à ces principes importants. Premièrement, c'est l'interprétation conforme à la Constitution. Et que les normes constitutionnelles doivent être en ligne avec la Constitution. Et le bloc constitutionnel qui concernant donc les lois internationales qui se stratifient avec celles de Mexico. Et il doit y avoir une interprétation harmonique du système judiciaire. Et d'autre part, il se présente du pouvoir judiciaire un article pour devant donc faciliter cette interprétation. Nous sommes maintenant, nous allons mentionner ce qui va. Bon, il y a bien sûr, parmi ces lois, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur l'élimination de tout type d'intolérance et sur la base de la religion, des convictions. Et puis, dans le cas de régionaux, les documents américains concernant donc d'un point plus régional, les documents, la Convention américaine, la Constitution américaine et le pacte de San José et ce protocole. Et il y a la liberté aussi de passer et de choisir sa religion. Et ce qui doit être interprété, c'est ce que ce serait si ces articles constitutionnels et la législation et la réglementation des articles concernant la liberté religieuse et la liberté d'expression, nous allons noter je dirais que Mexico est en train de travailler sur ce que va être une liberté totale de ce que sera une liberté totale d'expression. Et nous allons montrer cela, en fait, d'une manière un peu conflictuelle, mais nous allons nous conformer à ce qui va être lié avec l'article constitutionnel premier, et ceci va être présenté. Et cet article, je le mentionne, devons équilibrer tout cela selon un point justice. Donc, en conclusion, donc il n'y a pas donc la liberté d'expression a été grandement limitée ici et dans le cas mexicain. Donc, the law is going to have to open up a little bit. Va s'ouvrir et avoir de cette relation avec la structure internationale et les lois internationales qui pénètrent notre pays. Merci encore une fois.
We thank our three presenters for.
Nous sommes reconnaissants pour vos commentaires très intéressants et pour rester dans les 15 minutes de façon religieuse, nous pourrions peut-être dire. Nous aurions dû finir il y a déjà 5 minutes, mais peut-être si nous allons peut-être prendre une ou deux questions, si vous pouvez vous identifier lorsque vous posez la question et parlez lentement afin que les interprètes puissent vous suivre.
Erdoğan Arslan, Türkiye'den katılıyorum. Öncelikle Sayın Profesör Joseph Herman. Düşüncelerine sonuna kadar katılıyorum.
Désolé, on n'a pas la traduction turque là, donc on peut pas traduire tout de suite.
Düşüncelerine sonuna kadar katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum.
Je suis d'accord avec tout et j'aimerais vous remercier de tout ce qu'il a dit. J'espère qu'il y a plus de personnes comme vous qui vont. Il y aura plus de personnes comme vous. J'aimerais poser la question suivante à professeur Marco. Que voulez-vous dire entre les grandes religions et les petites religions ? En Allemagne, il y a 4% de musulmans, mais 99% d'entre eux sont turcs. Et sur ces statistiques, qu'est-ce que... Bien sûr, dans la situation en Allemagne, parlant des minorités, je pensais aux autres groupes essentiellement, comme l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Bien sûr, l'islam n'est plus pas vraiment une religion minoritaire. Ça fait partie de la vie allemande, majoritairement.
Turkish schools in Germany, like in Turkey, I can tell you like how many schools you know are for German people.
Je peux vous dire combien d'écoles il y a en Turquie pour les Allemands, mais il y a combien d'écoles en Allemagne pour les Turcs?
It is part comment and part question, both.
C'est un peu question et commentaire pour les deux orateurs qui ont parlé de prosélytisme. L'une des choses qui a été développée en Angleterre et concernant dans le forum musulman, c'est un groupe de directive qui établie par les différents dirigeants et c'est adresse le comportement de l'évangélisation et je pense que quand professeur Sanchez parle du droit de persuader un musulman penserait un peu plus un droit d'inviter. C'est presque la même chose, mais je préfère presque la position musulmane, le droit d'inviter les gens à notre foi. Ces directives ont été envoyées dans différents pays dans le monde et ont été bien reçues. Et sont très efficaces. Il y a des moyens très efficaces dans la société civile d'évangéliser, de faire de manière acceptable et qui fait d'éviter ce genre de législation offensive. Et je me demandais si vous aviez quelque chose de similaire au Mexique ou quelque chose de similaire en Espagne. Si ce n'est pas cela, je m'assurerai de vous envoyer en fait une copie de la sorte.
Tu t'occupes du reste ?
À demain. Pardon. Je vais parler en espagnol si c'est possible. Je ne comprends pas les préjudices qui existent entre les libertés religieuses, car Mais mon ami, lorsque nous avons parti des religions, toutes les lumières s'allument, tout et quelque chose se passe. Je ne crois pas qu'il y a une limite aux libertés d'expression et d'où ça vient. Et il doit y avoir du respect et un équilibre des droits. Je ne sais pas si vous avez réalisé dimanche, lorsque vous êtes allé à la conférence générale des Mormons à Salt Lake City, et il y avait à la porte des gens qui n'étaient pas membres de l'Église mormone, qui avaient le droit de s'exprimer et qui n'étaient contre l'Église. Et j'ai été témoin que certaines choses étaient très ont offensé les Mormons. Et c'est un exercice, c'est une pratique de la liberté d'expression en Espagne que nous n'aurons jamais la tentation de régulariser le droit de la liberté d'expression que nous appelons positivisme, que j'appelle aussi le droit de convaincre une autre personne. Le repas nous attend, nous demandons, et si c'est un repas chaud, ça va refroidir. Si c'est un repas froid, ça devient chaud. Nous devons donc remercier nos orateurs et terminer cette session. Je vous remercie.